Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Le décryptage de la vie politique en France, c'est maintenant sur RFI. Voici Dimanche Politique.
Philippe Le Caplin.
Il y a beaucoup de choses à dire, deux jours après la nomination du premier gouvernement du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Et nous allons voir cela avec vous, Emmanuel Rivière. Bonsoir.
Bonsoir.
Directeur international pour les études politiques de l'Institut de sondage Kantar Public. Après la nomination du gouvernement avant-hier et le premier conseil des ministres, demain matin, Elisabeth Borne a trouvé le temps de se rendre dans le Calvados. Non pas pour se reposer de ses premières émotions, mais pour faire campagne, car elle se présente à la députation. C'était à Thury-Harcourt, non loin de Caen, et Lucile Gimbert, vous y étiez pour RFI. Une campagne électorale, ce sont des poignées de main, des sourires, des tapes dans le dos. Alors, est-ce que Elisabeth Borne était à l'aise ?
Alors elle était plutôt souriante, elle n'a pas rechigné à prendre des selfies avec les habitants qu'elle a croisés et qui le lui demandaient sur ce vide-grenier d'un village normand, plutôt patiente. Ceux qui se sont approchés d'elle étaient plutôt enthousiastes, certains soulignaient sa droiture, son calme, mais peu la connaissent réellement. Avec un peu de chance, ils connaissaient son nom, savaient qu'elle était première ministre, et c'est d'ailleurs la principale information, ils ne pensaient pas forcément aux législatives. De quoi ils lui ont parlé, ses habitants ? Eh bien, de pouvoir d'achat, d'écologie, c'est par exemple ce sur quoi elle a interpellée Chantal, retraitée. Elle a été aussi interpellée par d'autres habitants plus critiques et elle a su se montrer à l'écoute et à répondre, mais peu de répartie dans ces échanges, notamment quand il y avait un élément plus critique, comme face à cette électrice d'Éric Zemmour ou encore face à cet habitant avec des postures complotistes sur l'Ukraine. Elle s'est contentée souvent de répéter « je vois que nous ne sommes pas d'accord ». Même chose avec ses opposants, par exemple de la nouvelle coalition de gauche, respect, cordialité, bonne humeur, mais pas de ping-pong politique.
Est-ce qu'elle a été perçue comme une aspirante députée ou comme une première ministre en poste ?
Alors pour tout le monde, elle avait la casquette de nouvelle première ministre. Les habitants sur ce vide-grenier, puis à la fête locale à Verson, étaient intéressés par ses nouvelles fonctions, avec des espoirs dans le cas de certains. Assez éclipsé en fait sa campagne pour les législatives, et pourtant c'est un baptême du feu pour Elisabeth Borne.
Oui, elle ne s'est jamais présentée au suffrage universel.
Voilà, jamais élue. Et puis pour ses opposants locaux, Elisabeth Borne est une parachutée qui vient de Paris, qui pour certains détracteurs utilise en plus les moyens de déplacement du gouvernement pour faire sa propre campagne. Elle insiste sur le fait que si elle a un ancrage local, sa famille est originaire, pas de la circonscription précisément, mais de pas très loin. Et puis, elle estime qu'elle peut réussir. C'est d'ailleurs une circonscription où, a priori, ça ne devrait pas être trop difficile pour elle.
Lucile Gimbert, vous disiez une parachutée. Une question pour vous, Emmanuel Rivière. Elisabeth Borne, une technocrate, on voit bien qu'elle a de la distance encore. Elle n'est pas rouée à la chose publique, au contact humain.
Elle est en train de devenir quelque chose et on verra bien ce qu'elle devient en tant que Premier ministre, que Première ministre d'ailleurs. Lorsque on mesurait les différentes cotes des personnalités politiques avant même sa nomination, au début de mois, dans notre baromètre, le baromètre Kantar Public Epoca pour le Figaro Magazine, il y avait un intérêt autour d'Elisabeth Borne. Elle gagnait 8 points, mais à 21% de cotes d'avenir, c'est-à-dire 21% de Français souhaitant lui voir jouer un rôle important, ce qui veut dire à contrario qu'avant, elle était quand même dans le bas du classement après avoir occupé les ministères du transport, de l'environnement et du travail. Et sans doute oui, parce qu'elle était un peu trop une techno et peut-être pas assez une politique, elle n'avait pas émergé comme d'autres de ses collègues du gouvernement qui avaient su se faire un peu une place à la lumière. Alors certains, évidemment, pas à la faveur des circonstances, comme Olivier Véran, mais d'autres parce qu'ils attrapaient un peu mieux la lumière. Et c'est un peu le défi qu'elle a, mais voilà, vraisemblablement, Elisabeth Borne va devenir quelque chose.
Vous le disiez, elle a occupé plusieurs portefeuilles dans les précédents gouvernements. Une douzaine de ministres du gouvernement Castex restent également dans le gouvernement Borne. Les deux premiers ministres dans l'ordre protocolaire sont Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Le controversé Éric Dupond-Moretti est toujours là. On pourrait presque penser qu'il s'agit plus d'un remaniement ministériel que de l'annonce d'un nouveau gouvernement.
C'est vrai, c'est assez étonnant parce qu'on voit bien ce qui est en train de se dessiner dans le climat d'opinion en France dans cette séquence électorale. Bon, à nouveau Emmanuel Macron confronté à Marine Le Pen et sa réélection accueillie sans grande ferveur. Dans le baromètre que j'évoquais tout à l'heure, il recule même, alors qu'on pouvait s'attendre à ce que sa réélection donne une espèce de prime. Un intérêt pour la politique qui reste mesuré, une projection dans les législatives qui reste compliquée. Donc on s'attendait à ce qu'il y ait une espèce d'élan, le chef de l'État ayant indiqué clairement qu'il allait avoir autre chose, que ce quinquennat serait autre chose. Et sur les postes qui sont les plus en vue, on voit des personnalités bien connues qui restent. Et puis pour les nouveaux entrants, ce sont souvent des inconnus du grand public. Donc le sens du changement, il n'est pas très clair à décrypter.
Et parmi eux, il y en a un qui s'appelle Damien Abad. Et c'est déjà une polémique à laquelle doit faire face Elisabeth Borne. Elle vise donc ce ministre des Solidarités qui vient tout juste de prendre ses fonctions. Mediapart révèle des accusations de viol présumées à son encontre, datant de 2010 et 2011, portées par deux femmes dont le média en ligne a recueilli les témoignages. Ce signalement a eu lieu avant sa nomination au gouvernement avant-hier, puisque La République En Marche a été informée de cela. Damien Abad dit contester ces accusations avec la plus grande force. Quant à la Première ministre, elle a bien sûr été interrogée sur cette affaire ce matin par vous, Lucile Gimbert.
Bien évidemment, je n'étais pas au courant. Je vais être très clair sur tous ces sujets de harcèlement, d'agression sexuelle. Il ne peut y avoir aucune impunité. Et il faut continuer à agir pour que les femmes qui peuvent être victimes d'agression, de harcèlement puissent libérer leur parole, qu'elles soient bien accueillies pour déposer plainte. Moi, j'ai découvert l'article de Mediapart hier. J'ai pas plus d'éléments que le fait que l'affaire a été classée sans suite. Je peux vous assurer que s'il y a des nouveaux éléments, si la justice est à nouveau saisie, on tirera toutes les conséquences de sa décision.
Damien Abad, peut-il, doit-il rester au gouvernement ? La réponse de Patrick Mignola, vice-président du Modem sur France 3 tout à l'heure.
C'est l'évidence, puisqu'on ne peut pas pré-condamner les gens sur la base d'affirmations. Moi, j'ai aucune raison de remettre en cause la parole des femmes. Mais c'est important que la justice passe et qu'ensuite elle détermine s'il y a lieu ou non de condamner. Il y aura toutes les raisons de quitter le gouvernement s'il est condamné. Il n'y a pas de raison qu'il le quitte tant qu'il n'est pas condamné.
Position inverse de Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts.
Il n'aurait jamais dû être nommé, puisque de ce que je comprends, c'est un secret de polichinelle, son attitude à l'égard des femmes. Et donc il y a des accusations extrêmement graves de la part de Mediapart, y compris de viol. Moi j'appelle le procureur à se saisir, qu'il puisse y avoir une enquête. Peut-être que ça puisse d'ailleurs libérer la parole d'autres femmes et que la justice puisse se prononcer.
Emmanuel Rivière, ce qu'on peut observer, c'est que le premier gouvernement du premier quinquennat d'Emmanuel Macron avait été marqué par des démissions peu de temps après la nomination de certains ministres dans des configurations autres, hein, bien évidemment.
Oui, parce qu'il y avait, enfin, il y avait deux sources de démission. Il y a eu la démission de Richard Ferrand à propos de l'affaire des mutuelles de Bretagne. Et puis il y a la démission de trois ministres du Modem en raison des soupçons sur l'utilisation des assistants parlementaires. Dans les deux cas, d'ailleurs, on est sur des questions de respect de la loi par rapport à des questions financières, essentiellement financières, financement des partis politiques et sur, effectivement, les questions de prise illégale d'intérêt ou approchant. Là, c'est un peu différent. Et on voit bien l'embarras du gouvernement qui est pris entre deux logiques. La logique de la présomption d'innocence et du soutien à un nouveau collègue du gouvernement. Et puis une autre logique qui est celle du progrès, je crois qu'on peut appeler ça comme ça, constaté depuis quelques années sur la réception de la parole des femmes victimes de violences sexuelles. Et avec cette espèce d'épée de Damoclès dans ces cas-là, c'est que si on manifeste un manque de solidarité, on pourrait être accusé de lyncher quelqu'un sans qu'il y ait d'éléments effectivement étayés par la justice. Et à l'inverse, si on écarte un peu trop vite, on risque d'être confronté au fait qu'il y ait, comme l'évoquait Julien Bayou, d'autres paroles qui viennent étayer l'accusation. Et donc, on peut imaginer, en tout cas les faits sont là, que le gouvernement se serait bien passé de cela au moment de sa formation.
On verra donc ce sur quoi aboutissent ces révélations. D'un point de vue politique, l'arrivée de Damien Abad au gouvernement est intéressante. Elle traduit la poursuite de la fracturation de la droite par Emmanuel Macron, car Damien Abad n'est pas n'importe qui, même s'il n'est pas très connu du grand public.
Oui, c'est effectivement une sorte de prise de guerre. Du côté des Républicains, on considérera sans doute que c'est un débauchage. L'abbé Imbade était le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Donc ça poursuit en fait cette espèce de déconstruction et ça confirme l'attraction qu'exerce encore aujourd'hui La République En Marche et la construction de la majorité sur une partie des représentants des Républicains, après les ralliements d'Éric Woerth et d'autres pendant la campagne présidentielle. Si on compare à 2017, c'est quand même pas tout à fait la même chose que Darmanin, Le Maire, qui étaient des figures déjà connues du grand public, en particulier Bruno Le Maire, puisqu'il avait concouru, il avait été ministre plusieurs fois, puis concouru à la primaire des Républicains. Je pense que Damien Abad, c'est quand même pas quelqu'un qui était très identifié. C'est pour ça que c'est d'ailleurs un peu embarrassant que ce soit sous cet angle-là qu'on parle de lui aujourd'hui.
Autre ministre qui est la cible de critiques dans un tout autre registre, c'est Pam Ndiaye, le ministre de l'Éducation. La surprise de ce gouvernement, l'extrême droite l'a aussitôt pris en grippe, à l'instar de Marine Le Pen du Rassemblement National, qui a déclaré ceci. Sa nomination indigéniste assumée à l'éducation nationale et la dernière pierre de la déconstruction de notre pays, de ses valeurs. Éric Zemmour assure que c'est toute l'histoire de France qui va être revisitée à l'aune de l'indigénisme, de l'idéologie woke et de l'islamo-gauchisme. Son collègue du gouvernement, Clément Beaune, qui est ministre des Affaires européennes, est venu à son secours ce matin sur CNews.
Cette polémique est représentative de ces effets de dérive et d'emballement du débat public. Je la trouve surréaliste et malhonnête. C'est un homme qui a toujours justement tenu ce sens de la nuance, qui n'est pas du tout, comme on le présente de manière éhontée, assez scandaleuse, comme un wokiste, un indigéniste, un communautariste, ça n'est jamais son propos. Travailler sur la question des minorités, sur la question des discriminations, sur la question du racisme, est-ce que c'est sombrer dans un communautarisme ? C'est absolument important.
Ce ne sont pas ces travaux qui sont mis en cause, ce sont ces dernières déclarations.
Il a nié justement les questions de privilège blanc, de racisme d'État. Il a dit qu'il y avait dans notre société des phénomènes racistes, des phénomènes de discrimination. C'est une évidence et heureusement qu'on le rappelle.
Emmanuel Rivière de Kantar Public. Entre Jean-Michel Blanquer et Pam Ndiaye, c'est un changement majeur. Est-ce qu'il faut l'interpréter politiquement comme un gage donné par Emmanuel Macron à la gauche dans la perspective des législatives ?
Quelque chose qui répond en soi à la question, c'est la manière dont Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé sur la formation du gouvernement, en y voyant beaucoup de continuité dans la caste sociale, etc., et en saluant la nomination de Pam Ndiaye comme étant de fait un mouvement à ce ministère très important vers sans doute une partie de la gauche. Mais c'est vrai que le contraste avec Jean-Michel Blanquer est assez saisissant de ce point de vue-là, compte tenu de ce qui est dit de Pam Ndiaye. Alors, je crois que Clément Beaune a raison de souligner que le débat politique à l'heure actuelle ne porte pas beaucoup à la nuance. Mais entre ce qui est dit de lui par Marine Le Pen, Éric Zemmour, que vous l'avez rappelé, et ce qu'a été la position de Jean-Michel Blanquer sur le wokisme précisément, en brandissant cette espèce de croisade autour d'un mot qu'à peine 10% des Français savent décrypter, on peut aussi se demander quelle est la continuité et quelle est la position d'Emmanuel Macron lui-même pour avoir eu successivement au ministère de l'Éducation nationale et Jean-Michel Blanquer et Pam Ndiaye.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Caplain.
Alors, une des priorités de ce nouveau gouvernement, c'est le pouvoir d'achat. Écoutez ce qu'en disait le LR Gérard Larcher, le président du Sénat, sur Europe 1 ce dimanche matin.
Il y a besoin de soutenir le pouvoir d'achat, mais il faut le cibler pour ceux qui en ont réellement besoin. Pour les plus modestes, on ne pourra pas éternellement continuer avec la politique du chèque. Il n'y a aucune proposition, ni de recette, ni d'économie. Ça veut dire qu'on continue dans le quoi qu'il en coûte et on s'en va vers le quoi qu'il advienne, avec une réalité qui va un jour s'imposer à nous de retrouver des équilibres. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs à la Première ministre.
Et puis, il y a un sujet qui passe inaperçu alors qu'il a été un enjeu de la campagne présidentielle et qu'il agitera peut-être la rentrée, c'est le dossier de la réforme des retraites. Au point que dans la composition du gouvernement, Emmanuel Rivière, on a presque du mal à savoir qui s'en chargera. Pourquoi une telle discrétion ?
Parce qu'il y a une nouvelle élection là, qui se présente, c'est législative, et que sans doute on évite de mettre en avant à nouveau ce chiffon rouge qui avait vraiment joué le rôle d'un chiffon rouge pendant la campagne présidentielle. C'est-à-dire que au moment où Jean-Luc Mélenchon émerge et fait une progression qui l'amènera aux portes du second tour, au moment où Emmanuel Macron lui-même semble décrocher notamment dans les projections de second tour avant de se rétablir, c'est aussi un peu l'annonce de son programme. Et de son programme, on a surtout retenu ça. Le fait qu'il y a eu un mouvement déjà pendant la campagne, notamment la campagne entre deux tours sur on passe de 65 à 64 avec une clause de revoyure, dit bien, je crois, à quel point on a identifié ce sujet comme étant potentiellement un danger. Et là où peut-être que par rapport à Marine Le Pen, c'était moins central, par rapport à ce qui semble être l'adversaire principal de la majorité pour les législatives, qui est la NUPES, peut-être que c'est un sujet qui pourrait être un moteur pour aller inciter des électeurs de gauche à aller voter contre la majorité.
Alors nous sommes à 3 semaines du premier tour de ces élections législatives. Si l'insoumis Jean-Luc Mélenchon rêve de devenir Premier ministre, Marine Le Pen, elle, a des ambitions bien plus modestes. Julien Chavannes du service politique de RFI, l'ex-candidat du Rassemblement National a pourtant fini à la 2e place de cette présidentielle.
Eh oui, il ne faut pas l'oublier, elle a été finaliste face à Emmanuel Macron avec un score record, plus de 40% des voix. Mais voilà, sitôt la présidentielle passée, on a l'impression que le RN repart de zéro pour les législatives. Quand Jean-Luc Mélenchon prédit la victoire de l'Union de la gauche et un raz-de-marée à l'Assemblée, Marine Le Pen, elle, se contente d'espérer 15 députés, le seuil indispensable pour former un groupe. Un groupe, ça veut dire avoir plus de moyens pour se faire entendre. Mais 15 sièges sur 577, vous le reconnaîtrez, c'est plus que modeste.
Alors pourquoi un objectif aussi bas ?
C'est vrai, c'est comme si un footballeur vous déclarait avant une Coupe du Monde qu'il espère seulement arriver en 8e de finale. Pas de quoi enthousiasmer les supporters. Eh bien, en politique, c'est prendre le risque de démobiliser les électeurs. Un vrai problème pour le RN, victime d'une forte abstention de son électorat aux dernières régionales. Marine Le Pen s'en est rendue compte, elle a donc changé de braquet. Désormais, l'objectif est d'obtenir 60 députés. Le groupe RN pourrait alors, par exemple, saisir le Conseil constitutionnel.
Autre chose, Éric Zemmour a proposé un accord au Rassemblement national. Marine Le Pen l'a décliné. Pour quelle raison ?
Elle lui a dit merci, hein, mais non merci. L'état-major du RN estime qu'il n'a pas besoin de l'aide de l'ancien rival et que le report des voix de reconquête vers le RN se fera naturellement, comme à la présidentielle. Les candidats d'Éric Zemmour servent de sas à nos électeurs, analyse un proche de Marine Le Pen. Éric Zemmour jouerait, selon lui, le rôle de rabatteur des voix de droite pour le second tour.
Julien Chavannes, Emmanuel Rivière de Cantar Public. Dans les études, est-ce que le RN réitérerait son bon score de la présidentielle ?
Alors, dans les projections sur les parts de voix au premier tour, on est effectivement pas loin de la présidentielle, autour de 20% dans les différentes études, ce qui serait une chose différente de ce qu'on a constaté il y a 5 ans, où il y avait une vraie déperdition en passant de 21% pour Marine Le Pen à la présidentielle à 13%. Mais ensuite, on reste sur un mode de scrutin qui est compliqué, puisqu'il faut faire plus de 50% au second tour, et ce qui explique qu'un bon score de premier tour pour le RN peut se transformer en assez peu de députés à l'arrivée.
Chez LR à présent, malgré sa déculottée à la présidentielle avec seulement 4,8% des voix, LR veut occuper toute sa place. Écoutez, Monsieur Larcher, président du Sénat.
Je ne peux pas me résoudre à ce que l'opposition à l'Assemblée nationale soit incarnée uniquement par la France insoumise et le Rassemblement national. Nous avons besoin d'une opposition qui soit claire, claire dans ses choix, positive pour le pays.
Entre vous et Éric Ciotti, la clarté, je la cherche.
Non, parce que nous avons toujours eu une droite avec une dimension régalienne et une dimension sociale. Moi, je n'oppose pas Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand. Je n'oppose pas Aurélien Pradier à François-Xavier Bellamy. Nous avons besoin de ces composantes-là. Mais nous aurons la nécessité d'un débat après les élections législatives pour tracer l'avenir. Comment nous reparlons français ? Comment nous retrouvons leur confiance ? Et je m'y investirai totalement.
Et il y a du travail.
Oui, les Républicains sont un petit peu en mode survie, là. Ils étaient, il faut le rappeler, hein, le principal groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Ils tiennent encore le Sénat, mais il y a ce risque que leur groupe d'une centaine de députés soit réduit. Et après, effectivement, ils peuvent avoir l'espoir que, ayant perdu pour l'essentiel leurs électeurs au profit d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron confronté à l'usure du pouvoir leur rend une partie. Mais il faut qu'ils reposent les bases pour dire à quoi ils servent entre Emmanuel Macron et le Rassemblement national.
Merci Emmanuel Rivière. C'était Dimanche Politique sur Radio France Internationale.